cette semaine avec Don Delvis et Guy.
Bienvenue, chers auditeurs, pour cette 12e étape de notre voyage à travers la tradition. Si lors de notre première séance, nous avons constaté les silences des Écritures et les rôles des livres apocryphes, nous allons aujourd'hui découvrir comment l'Orient, les foyers de la première pensée chrétienne, a brillamment systématisé la doctrine de l'Assomption. Il faut noter que la réflexion théologique en Orient sur ce mystère est beaucoup plus développée que celle que nous trouvons en Occident. En effet, dès le 6e siècle, la fête de la Dormition est solidement établie. Fixée au 15 août par l'empereur Maurice, cette célébration est d'une importance capitale pour les Orientaux, au point d'être la célébration mariale par excellence. Les mois d'août, tout entier devient les mois mariales bicentins. Et l'année liturgique s'y culmine. Elle s'ouvre avec la Nativité des Maries, le 8 septembre, et se ferme avec son retour à Dieu. Cette fête célèbre donc, sans équivoque, les passages de la Vierge Marie dans la gloire. Pour comprendre l'orthodoxie de cette croyance orientale, nous devons nous tourner vers Saint Jean Damascène, un théologien du 8e siècle, considéré comme l'un des derniers pères de l'Église. Jean de Damas est connu comme les meilleurs témoins de la tradition patristique et théologique, qui reconnaît les privilèges mariaux. Il a consacré pas moins de 3 homélies au mystère de la Dormition et de l'Assomption de la Vierge. Dans ses écrits, Jean Damascène n'hésite pas à utiliser librement les évangiles apocryphes. Il rassemble autour du lit des morts de Marie non seulement les apôtres arrivant en une nuée, mais aussi les disciples, les patriarches et les saints. Les points cruciaux chez Damascène est l'affirmation très claire de la mort de Marie, suivie de sa résurrection. Oh, surprise! Celle qui, dans l'enfantement, a surmonté les limites de la nature, maintenant se courbe sous ses lois et son corps immaculé est soumis à la mort. Pour lui, la mort n'est pas une défaite, mais un passage nécessaire, un événement que le maître de la nature lui-même n'a pas refusé. Parlons bien sûr de Jésus-Christ. Le raisonnement du Damascène est d'une logique implacable, découlant directement de son statut de mère des dieux, de Théotokos. Puisque Marie a porté Dieu dans son sein, était considérée comme libre de tout péché, elle ne pouvait être sujet à la corruption du sépulcre. L'incorruptibilité est une nécessité découlante de sa pureté. Jean Damascène soutient qu'il faut en effet déposer ce qui est mortel pour revêtir l'incorruptibilité. Il formule ces principes de convenance de manière très forte. Il était nécessaire que celle qui avait préservé sa virginité intacte lors de l'accouchement préserve son corps de la corruption après la mort. Pour Saint Jean Damascène, la glorification du corps de Marie n'est rien d'autre qu'une anticipation de la résurrection finale par la vertu de la volonté de Dieu. Bien que la définition dogmatique de 1950 soit restée silencieuse sur la question de la mort, la tradition patristique orientale, dont Damascène est porte-parole, affirme clairement que Marie mourut réellement et puis fut ressuscité. À notre père de l'Église orientale, Saint Grégoire de Nice, a lui aussi enseigné que Marie gagna la bataille contre la mort. Dans son traité De Virginitate, il établit que la virginité triomphe sur l'empire de la mort. Bien qu'il affirme clairement que Marie est morte, il précise aussi que le règne de la mort s'est arrêté en elle. Pour lui, la mort s'est détruite en arrivant à elle. Si Marie ressuscite et triomphe ainsi, il est évident qu'elle fut assumée au ciel. elle n'a fait que suivre ce chemin qui est son fils Jésus-Christ. Ainsi, la mère du Sauveur reçoit un privilège spécial qui lui permet de jouir dès maintenant des joies qui pour nous seront révélées à la fin des temps. L'Orient nous offre donc une vision complète et assurée de ces mystères. Demain, nous traverserons la Méditerranée pour découvrir la tradition occidentale qui, nous le verrons, est extrêmement pauvre, mais tout aussi essentielle pour la construction finale du dogme. Nous y rencontrerons Saint Ambroise de Milan ainsi que Saint Isidore de Séville.